On se tutoie
sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Salut Jean-Luc.
Oh, comment va Quentin? Oh Chris, bonjour, bonsoir, bon week-end à vous. Comment, oui, comment présenter ce soir celui que j'allais recevoir? Je savais qu'il fallait pas que je lui fasse à l'envers, de peur que je me prenne un revers. Il avait suffisamment de bouteilles dans le casier, de boîtes de conserve dans la cuisine, de réserves dans la cantine. Il en avait connu des tonnes de tontons flingueurs, des gendarmes et des voleurs que lui-même, pendant des années, le dimanche, avait mis en valeur. Système ô combien pervers, car ceux-là même qu'il avait tellement mis en avant ont voulu plus d'une fois le voir repartir les pieds en devant. Eh ouais. Il avait lui-même failli plusieurs fois voler en éclats. Mais il était malin, le larbin. Tous ceux qui, sur son passage, avaient voulu l'enterrer, s'étaient fait au fil des années dessouder. Il continuait tranquille pépère à avancer de son canapé, laissant les stars s'écouter parler, laissant leur vie s'écouler ou s'écrouler en fonction de leur talent. Il les avait tous connus, des plus grands aux plus petits des trous du fût. Il les avait vus monter et descendre sur l'ascenseur émotionnel de leur vie de star qu'ils croyaient éternelle. Mais lui, il s'en foutait. Ce qu'il voulait autour de lui, vu de son canapé, c'était de voir les yeux briller. Les émotions liées autour d'une vérité à un instant T, ces petits moments suspendus, il les avait tous vécus, il les avait voulus, il les avait attendus. Aujourd'hui, après toutes ces années sous le sunlight des ironiques, des cyniques et des critiques, lui a décidé de continuer, de ne jamais s'arrêter, de se laisser surprendre par la vie comme un vieux saumon fumé sur canapé qui remonte la rivière à contre-courant, toujours droit devant, qui sent le vent bien avant qu'il ait commencé à tourner. Avec son sixième sens, hors de question d'arrêter, il a bel et bien décidé de continuer à brûler les planches, en aimant de temps en temps se retourner pour écrire afin de raconter les bonnes vieilles histoires du passé du dimanche, mais surtout, lui, pour toujours, a décidé de continuer à avancer sur les Champs-Élysées de sa vie. Bonsoir Michel Drucker.
On se tutoie.
Eh oui, on se tutoie.
Bonjour Jean-Luc, merci de me recevoir.
Non, mais c'est un plaisir. Voilà, c'est un peu ça quand même, hein, de recevoir les gens et de continuer à les faire briller.
Quand on est de l'autre côté, c'est pas la même chose.
Ouais.
Je suis un peu intimidé d'ailleurs.
Mais ça me fait plaisir parce qu'on se connaît très très bien.
Ben, à une époque, on se côtoyait dans une cabine proche l'une de l'autre.
Oui, c'est ça.
Sur TF1, moi je faisais mes premiers pas sur TF1 chaîne privée, et toi tu me faisais les bandes annonces.
C'était exactement ça. Alors on va parler un petit peu de ta carrière succinctement parce que tout le monde la connaît, l'a vue et l'a revue. On va essayer d'aborder cette interview un petit peu différemment. Ça commence dans les années 60, 1964. Bienvenue à l'ORTF. Le petit Michel Drucker fait ses débuts en tant que commentateur sportif dans Sport Dimanche. Puis, alors là, il y a quand même une émission que je ne connaissais pas, Tilt Magazine. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce Tilt Magazine, Michel?
Première émission de divertissement que je présente en direct depuis Douai.
Oui.
Dans le Nord, avec 2000 ch'tis dans la salle. C'était d'ailleurs en plein air. C'était Michel Arnaud, ma première productrice, qui m'avait engagé. Elle trouvait que je pouvais peut-être me débrouiller puisqu'elle cherchait un jeune pour présenter une émission de jeunes et c'est tombé sur moi.
Eh ben écoute, ça t'appelait Tilt Magazine. Et puis alors après, donc il y a la télé. Et puis dans les années 70, tu arrives dans l'aventure. C'est l'aventure.
Oui.
Extraordinaire. Tu fais quand même une apparition en tant que comédien,
avec Lelouch, qui était un copain de mes débuts. Et c'est l'aventure, chanté par Johnny. Johnny avait un rôle là-dedans, et moi, j'annonçais son kidnapping, je me souviens.
Oui. Et donc tu jouais ton propre rôle.
Mon propre rôle. Mais c'était surtout pour moi le bonheur de tourner avec Jacques Brel, avec Charles Denner, avec Aldo Macione, avec Lino Ventura et avec Claude Lelouch, que j'avais connu à mes débuts.
D'accord. Sur le tournage, ça s'est bien passé? C'était épique? C'était comment?
Ben, j'ai surtout sympathisé avec Brel.
Oui.
Et puis avec Lino.
Qu'est-ce qui t'a retenu chez des gens comme Brel et comme... qu'est-ce que tu as retenu, toi, de Brel et de Lino Ventura?
Il aimait l'aventure, puisque lorsqu'il a su qu'il était malade, il a dit au médecin, j'en ai pour combien de temps? Bon, vous avez un cancer du poumon, vous en avez pour 2 ans. Et il a tout arrêté, il a pris un bateau avec sa compagne de l'époque, il est parti faire le tour du monde.
Avec Mehdi,
et ensuite il a passé ses diplômes de pilote à Genève.
Oui.
Mais de pilote professionnel. Hein.
Mais de sa personnalité, t'as retenu quoi? Effectivement, c'était courageux, il a décidé de... Enfin, quand on a une nouvelle comme ça, on break, c'est normal. Mais de sa personnalité, de sa persévérance... De...
Là, j'ai vu le comédien.
Oui.
Très bon comédien. Bon, il avait fait l'homme de la Mancha aussi, mais... une force sur scène,
oui.
Une passion dévastatrice, mais sur scène, j'ai jamais vu ça. J'étais là pour sa dernière, il y avait Michel Delpech en première partie, à l'Olympia, tout le métier était là, applaudissements très longs, il remonte dans sa loge, et Bruno Cucatry vient le rechercher un quart d'heure après en disant « Jacques, redescendez parce que le public est encore là ».
C'est extraordinaire.
Donc il redescend avec un peignoir. Et il va rester 25 minutes. Une standing convention de 25 minutes. 25 minutes, c'est, la durée d'un journal télévisé, quoi.
Et toi, tu étais dans le public?
J'étais en coulisses.
D'accord.
Avec Delpech.
Extraordinaire.
Et après, j'ai piloté avec lui. On avait l'avion en commun.
Ouais, donc ça veut dire qu'il avait une persévérance, il avait une lucidité sur la vie. À un moment donné, quand il s'arrête de chanter, je pense qu'il est quand même assez jeune, il a dit « ça y est, j'ai tout raconté dans mes chansons, j'arrête de chanter en fait ».
Oui, quand il a su qu'il était malade, c'était à Bobigny, je me souviens, il a dit « bon, je vais vivre à fond pendant 2 ans, j'arrête tout ». Il est parti très jeune, Jacques.
C'était quoi, 49 ans, c'est ça?
Ouais, il n'avait pas 50 ans. Cancer du poumon, mais j'ai rarement vu un rapport avec le public comme ça, quoi. Il a l'impression qu'il allait mourir sur scène.
Oui, à chaque fois, il donnait tout, quoi.
Tout, et surtout, je l'ai vu, j'en étais le témoin dans sa loge, il avait un tel trac qu'il, pratiquement, il vomissait à chaque fois une demi-heure dans sa loge avant d'entrer sur scène.
La parallèle avec Édith Piaf, cette trouille au ventre, toi, qui as connu
C'est-à-dire que Édith ne buvait pas que de l'eau.
Ah oui, c'est ça.
Et elle arrivait sur scène dans un état souvent difficile, et on se disait, elle va pas chanter.
Oui.
Et cette petite bonne femme arrivait, et là, la voix, d'où venait cette voix? Mais Jacques, il m'a beaucoup marqué, et il a marqué toute une génération. Et c'est vrai que je pense souvent à lui. Il a eu un rapport compliqué avec les femmes, il a eu des chagrins d'amour, ne me quitte pas. À l'époque, c'était totalement autobiographique. C'était ça, qu'une femme de sa vie, il l'avait quitté.
C'était Guy France, non?
Non, c'était...
Non mais c'est pas très très grave, t'inquiète pas.
Mais je vais retrouver.
Il n'y a pas de souci, je sais que tu as très 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 bonne mémoire. Et donc c'est totalement autobiographique sur Ne me quitte pas, quoi.
Ouais, ne me quitte pas. Et... Ouais.
Il supportait pas de souffrir, c'est ça? Il supportait pas...
C'est un grand chagrin d'amour. Et c'est vrai que quand on réécoute la chanson, que des jeunes chantent maintenant dans The Voice. Hein,
oui, bien sûr.
C'est une chanson inoubliable. C'est comme Avec le temps de Ferré, quoi.
Absolument, on va reparler de Avec le temps, évidemment, parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, le temps. On continue juste, tu présentes Star sur TF1, donc Star, c'est ça, c'est Star d'ailleurs, c'est Star. Ça c'est Star. Et puis après, de TF1, tu passes sur Antenne 2 avec un générique que personne ne peut oublier. Et ça dure pendant des années. Champs-Élysées.
Ça alors. Je l'ai écouté 100 fois ce générique. Et à chaque fois que j'écoute, ça me fait quelque chose.
Ouais.
Ça m'appelle d'abord l'enregistrement. Et c'était deux auteurs-compositeurs que tu connais, Jean-Claude Petit et Jean-Pierre Bourterre, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui écrivaient beaucoup pour Claude François. Et Jean-Claude Petit est un grand arrangeur. Ils sont venus à la maison, j'ai dit voilà, confie l'émission de variété, je vais l'appeler Champs-Élysées. Très bien. Ils se sont mis au piano, ils ont comme tin, 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 tin. Et je ne savais pas que 45 ans après, on jouerait encore ce générique dans les boîtes de nuit, le soir, dans des mariages, des fêtes de famille.
Oui. Qu'est-ce que tu retiens de ces années Champs-Élysées, outre ce parterre fleuri, tout le monde se battait pour venir chez toi, dans ton émission. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces paillettes, de tout ça?
Mais on n'avait pas tellement de moyens, et à l'image, ça donne l'impression d'une émission fastueuse. Je retiens surtout que j'étais dans un lieu magique, le studio Cabriel, juste derrière l'Élysée. Je retiens que je me suis dit, il faut que ce soit le Festival de Cannes tous les samedis. Donc on s'est dit, on va mettre un tapis rouge et puis des limousines.
Oui.
Et on va changer les voitures tous les samedis. Il y a des voitures de collection, il y avait dans un... Je retiens surtout des moments très importants. La première fois qu'on diffuse le clip de Michael Jackson.
Oui. Oui, parce que c'était toi qui le diffuse en France.
Oui, absolument.
Oui.
Donc ça, c'était un moment important. Je retiens la visite de Dallas. Ackman et toute l'équipe de Dallas étaient là.
Oui, ton univers impitoyable.
Voilà, je retiens évidemment Whitney Houston et Serge Gainsbourg. On en parle encore tous les jours.
On va en reparler, ça, dans un instant.
Et,
ouais.
Puis, ça a été un moment magique. Ça a duré presque 10 ans. On m'en parle encore aujourd'hui. Mm-hmm. Et je retiens surtout un mauvais souvenir, c'est que le patron de l'époque a décidé de l'arrêter parce qu'il me trouvait démodé et has-been.
D'accord.
Et quelqu'un qui arrête une émission comme Champs-Élysées, il avait du nez, le gars.
Oui.
Alors on avait encore sous le pied, on pouvait encore faire ça pendant 10 ans.
Il s'appelait comment ?
Il s'appelle Monsieur Guillaume, Président Guillaume.
D'accord, Président Guillaume. Alors après,
paix à son âme. T'as.
Ah oui, bah bien sûr. Bah oui.
Il est plus là.
C'est ce que je disais, bien évidemment, en introduction tout à l'heure. Il y en a qui sont passés.
Ah, t'as connu ça dans ta carrière aussi.
Et ça va, ouais, ça va. On en a pas mal. Et nous, on est toujours là, et ça fait super plaisir d'être sur Nostalgie ce soir avec Michel Drucker, qui fait un petit aller-retour sur TF1, oui. Star 90, merveilleux, fantastique.
Et c'est là où tu faisais la bande-annonce.
Oui. C'est Star 90 ce soir. Alors à l'époque c'était 20h50 sur TF1, ouais. Maintenant c'est 22h10 après les pubs, tu vois ce que je veux te dire, ouais. Mais c'était 20h50 et j'avais l'honneur et la joie, rue des Morillons, de faire toutes tes voix off sur bande-annonce.
À quoi que t'aies des objets trouvés.
Oui, c'est exactement ça, le clou chez ma tante,
ouais.
C'est exactement ça, cet aller-retour sur TF1,
c'était un bon souvenir.
Ouais.
J'ai beaucoup appris avec Étienne Moujot, que j'avais connu, on a fait mes 68 ensemble, mm-hmm. Avec la famille Bouygues. Le lait, j'avais des raisons d'aimer le lait parce que ses parents avaient connu ma mère pendant la guerre. Et puis,
Avais délaissé le service public quand même.
Mais j'ai été viré.
Ouais.
Et le lait voulait absolument que je vienne depuis longtemps. Et c'est Monsieur Bouygues lui-même qui m'a engagé, mm-hmm. En tête à tête, avenue Gabriel, dans son hôtel particulier. Et j'ai signé le contrat après avoir mangé une langouste.
Ça, c'est bien. C'est important. Toujours signer le contrat après la langouste.
Oui. Et puis, en tête à tête, il dit voilà, il voulait absolument que je vienne. Et il m'a dit, vous inquiétez pas, vous ferez ce que vous voudrez, je restez sur votre ligne. La seule chose que je vous demande d'accepter, c'est qu'il y aura de la pub, mmh. Et des sponsors, mmh. C'était le privé. Mmh. Et j'ai passé 5 ans absolument magnifiques au pavillon Baltar, c'est nous qui avons ouvert Baltar. Et puis j'ai gardé des très bons rapports avec la famille Bouygues, puisque je déjeune 3 fois par an avec Martin.
90-94, effectivement, 5 ans. Et puis après, je sais pas ce qui se passe, tu reviens sur le service public, oui. Avec le fameux studio Gabriel.
Oui. Première quotidienne.
Ouais. Qu'est-ce qui te fait switcher de France Télévisions, TF1, j'ai bien compris, tu t'es fait virer. Mais TF1, tu repars sur France 2.
Alors là, je vais te raconter quelque chose que j'ai rarement raconté.
Oui.
C'est que Patrick Lelay, qui était le patron, et Étienne Moujot, je déjeune un jour avec eux, il me dit, écoute Michel, j'étais là depuis 4-5 ans, et c'est très rare qu'on dise ça à un animateur. Écoute, ça marche, tu fais des gros sondages. Malheureusement, ces sondages ne concernent pas notre cible publicitaire. On parlait déjà de la ménagère de moins de 50 ans qui est devenue la responsable des achats.
FRDA, femme responsable des achats.
Et Lelay, très gentiment, lui dit, tu veux un conseil ?
Ouais.
Si jamais tu as une proposition ailleurs, tu t'en vas. On ne t'en parle pas, mais tu t'en vas. Tu t'en vas parce que on ne pourra pas continuer Star 90 parce que ça ne rapporte pas assez.
C'est une histoire de fou. Et donc,
il m'a dit, je t'autorise à partir.
Je te mets à la porte élégamment, en fait, en sous-titrage et en décodeur. Et toi, tu retournes à France Télévisions, il t'ouvre la porte, comment ça se passe?
Et Jean-Pierre Elkabbach, entre-temps, est nommé patron.
Oui.
Et il me dit, Michel, il voulait que je fasse le 20h.
Ouais.
Il m'a dit, commence par l'Access Prime Time. Tu n'as jamais fait une quotidienne, fais-moi un Access Prime Time. Et on a créé Studio Gabriel, qui a duré 4 ou 5 ans.
Oui, alors moi j'ai 94-97 sur ma petite fiche, ouais, donc effectivement ça fait 4 ans.
Et là j'ai découvert une quotidienne.
Oui.
Et c'était assez extraordinaire, mais c'était très éprouvant, mais c'était un carrefour important, tu le sais comme moi, le carrefour 18h30-21h30.
Oui.
Privé ou pas privé, c'est un carrefour très important.
Bien sûr.
C'est là où ça se décide, quoi.
On va reparler de la télé d'aujourd'hui, hein, ce que tu en penses. Pour l'heure, on continue assez succinctement.
Studio Gabriel, c'est une grande rencontre avec Laurent Gérard et Virginie Lemoine.
Là, quand tu as amené cette touche de fantaisie, de comique, oui. D'autodérision, oui. Là, ça a apporté quand même un souffle nouveau, quand même.
C'est là où je commençais à me détendre.
Bien sûr.
Et puis, il y avait Benjamin Cassel, dit... Et puis il y avait beaucoup de gens qui sont venus. Et c'est vrai qu'avec Laurent Gérard, C'est les premiers avec Virginie qui détournaient les images.
Oui, et puis il y avait de l'autodérision sur toi-même. Sur
toi, tout le temps.
Mais tout le temps. Mais au début, il y en a qui étaient très premier degré, mais toi, tu as eu ce réflexe de te moquer de toi-même.
J'avais toujours, dans la vie, j'étais comme ça.
Oui.
Et on me disait, pourquoi t'es pas comme ça à l'antenne? Donc j'ai commencé, en fréquentant tous les humoristes, je me suis détendu et ce sont eux qui m'ont donné envie d'aller sur scène un jour.
Ça, c'est une histoire de fou. Et après, tu as été, bien sûr, copié. Et même, beaucoup, beaucoup d'humoristes sont venus. Et ça a mis un petit peu d'air frais dans tout cela. Il y a Vivement Dimanche qui arrive. Là, c'est dans les années 98. Et ça dure quand même un très long moment.
26 ans déjà.
Et ce jingle, et ce générique-là.
Ouais. C'est Frédéric Chateau.
Oui.
Qui a fait générique. Et c'est lui qui a fait générique de Star 90.
Et là, on a ça dans la tête depuis des années années. Émission dominicale emblématique. À l'époque, c'était Jacques Martin quand même.
J'ai succédé à Jacques dans des conditions très douloureuses parce que Jacques a fait un AVC.
Ouais.
À l'Empire, Jacques, c'était monumental. Jacques, c'était une institution.
Mais cet AVC...
Avec l'école des fans, c'était incontournable.
Avec Pinot de la Touka, on s'en rappelle. Avec Bob Kibel.
Bob Kibel et... Et puis, il y avait aussi le petit rapporteur qui a suivi. C'est la même bande, tout ça.
Ouais. Alors, cet ABC, il vient à la suite d'une mauvaise nouvelle, quand même, par rapport à Jacques Martin, parce qu'on le fait tomber du camion également, non?
Oui, c'est-à-dire que le patron de l'époque lui dit, il faudrait peut-être, il lui sort ce qu'on m'avait sorti sur TF1, former un jeune. Quand on dit former un jeune, ça sent le sapin.
Ouais.
Et donc, j'ai succédé. C'était très douloureux parce que je ne voulais pas accepter sans en parler à Jacques. Donc, je voulais absolument voir Jacques. Et puis, il était dans son lit. Il était très, sur le plan neurologique, très touché.
Oui.
J'ai jamais pu le voir. Je lui ai écrit une lettre, etc. Et puis, finalement, c'est Jean-Claude Brialy, dans un premier temps, qui l'a remplacé pendant les vacances. Et moi, j'ai remplacé Jean-Claude Brialy.
Absolument.
Ça fait 26 ans. Mais c'était dur parce que l'école des fans, il fallait passer derrière.
Ah oui, ça, je te confirme.
Il y a des familles qui arrivaient avec M. Gabriel et qui me demandaient à quelle heure passe l'école des fans.
Ouais, ça, c'est.
Ils pensaient que je remplaçais Jacques, mais dans la même formule.
C'est assez délicat, quand même. Mais toi, tu as toujours eu cette envie, et puis tu as toujours eu ce respect. On va parler, évidemment, avec Michel Drucker, qui est notre invité ce soir, dans On se tutoie sur Nostalgie, un peu plus intensément et en profondeur. L'envie, tu l'as toujours eu, et d'ailleurs, Johnny aussi, et tu sais de quoi on parle. Sur Nostalgie, c'est le Michel Drucker.
Ça c'est une grande chanson, ça.
Énorme.
Qui résume notre métier. Toujours avoir envie.
Mais c'est clair, net et précis. On l'écoute et puis on en parle juste après.
L'obscurité, puis la lumière.
On se tutoie.
Et on profite enfin du week-end. Jusqu'à 20h.
Jean-Luc Reichmann sur Nostalgie.
Extraordinaire, comme dirait Michel
Drucker. Qu'on allume ma vie.
Ouais, c'est des moments très très forts. Tu étais dans le studio quand il a enregistré.
Oui, moi j'ai vécu des moments assez formidables avec ça. Mm-hmm. J'étais dans le studio avec Jean Ferrat lorsqu'il a enregistré Nul ne guérit de son enfance, La montagne, tout ça. J'adorais aller en studio comme j'adorais aller sur les plateaux de télévision et les plateaux de cinéma.
Mm-hmm.
Et c'est vrai quand... Johnny, en enregistrant un disque, c'était incroyable, il faisait deux prises.
Il faisait deux prises, mais là,
Céline Dion, pareil.
Ce qui m'intéresse, c'est tu dis que c'est le résumé de notre profession qu'on me donne l'envie d'avoir envie.
Le jour où on n'a plus envie, on n'est pas bon.
Ouais.
Je crois.
Et puis ça se voit.
Oui, s'il dit, oh là, je me lève le matin, il faut que j'y aille. Non.
Oui. Et toi, t'as jamais eu ce sentiment une seule fois, après quand même toutes ces années? Combien d'années de carrière? Il y a quoi? Il y a 60 ans de carrière, là?
61.
Ouais, 61 ans de carrière.
C'est les 50 années les plus difficiles, après ça va tout seul.
Les 50 premières. Là, tu te sens de mieux en mieux, quoi.
Mais là, j'ai eu un petit coup de barre il y a quelques mois, j'ai un peu perdu l'envie, j'étais fatigué.
Oui.
Parce que je paye encore de temps en temps, c'est post-traumatique.
Ouais, c'est ce qui t'est arrivé il y a 3-4 ans.
Deux opérations très graves.
Oui.
Où là, j'aurais jamais dû revenir aussitôt, mais je voulais absolument parce que sinon, je me disais que je reviendrais jamais.
Oui, c'est comme le vélo, tu remonterais pas.
Voilà, exactement. Et puis, je suis allé, ça a été très, très dur physiquement. Ça l'est encore de temps en temps, je fais très attention. Mais.
Tu fais quoi au quotidien, là, pour faire attention?
Quand ça va bien, je fais une heure de sport par jour.
D'accord.
Et je suis chez moi.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai découvert, avec le confinement en plus, j'ai découvert la maison.
Et ça, c'est quand même fantastique. Grâce au confinement, tu as découvert ton chez-toi.
J'ai découvert mon appartement que j'ai visité, que j'ai trouvé très bien. Et ma femme m'a dit, je te signale qu'on est là depuis 40 ans.
Mais ça, c'est quand même extraordinaire.
Et donc, j'y suis tout le temps maintenant.
Ouais. Il y a eu des petites secousses dans ta vie. Il y en a une qui t'a particulièrement touché, bien évidemment. C'est celle de ton frère, qui en fait...
C'est le drame de ma vie.
Mais j'en suis persuadé, c'est-à-dire qu'il y a eu un élément... Il y a eu tout un côté de toi qui est parti. Je crois qu'il n'avait que 61 ans, c'est ce que j'ai compris.
Il n'avait même pas 62 ans, il avait créé M6, il avait un avenir formidable. Oui. Et on devait s'associer tous les deux.
Oui.
Il est mort le week-end de Pâques où j'allais lui faire signer les papiers. On s'associait tous les deux frères ensemble.
Ouais. Et là, on t'enlève de bras.
C'était affreux. D'ailleurs, dans mon bureau, à Fio Gabriel, il y a une énorme photo de lui. Et je pense à lui à chaque fois que je rentre en scène. Et je parle beaucoup de lui dans mon livre, d'ailleurs, parce que lui m'a dit une chose très, très juste. Il m'a dit, faire des bonnes audiences, certes, mais sur la longueur, c'est l'image. L'image, c'est l'audience de demain. Il me disait toujours, ne sacrifie pas l'image.
C'est important ce que tu dis, parce que la télé d'aujourd'hui, tu en penses quoi? C'est-à-dire que si par exemple, voilà, on parle de ton frère, mais si toi, tu avais un conseil à donner au petit Michel Drucker qui commencerait aujourd'hui, la télé, l'avenir de la télé, c'est quoi toi, pour toi?
Ben, le problème, c'est les écrans, c'est que ça va trop vite.
Oui.
Ça va très vite maintenant. La télé, ça tourne à la vitesse d'un clip, et moi je suis resté sur le rythme d'un long métrage.
Voire même d'un scopitone.
Ça va trop vite.
Oui.
Très vite maintenant. TikTok, tic, tout ça, c'est quoi? C'est 10 secondes, 20 secondes.
Oui, même pas.
Même pas.
Au bout de 2 secondes, ça y est, ça swap.
Alors cela dit, la puissance de ça, on avait fait un gag dans ton jardin. En Corse.
Oui, c'est vrai.
Où j'avais dit, je vous présente mon potager.
Oui, c'est le potager.
Et t'étais dans le jardin, et j'ai dit, voilà mon potager.
Oui.
Et en imitant...
Johnny.
Qu'est-ce qu'on a parlé?
Oui.
Qu'est-ce qu'on a parlé?
Oui.
À chaque fois qu'on a fait de petites bêtises ensemble,
oui,
on en a parlé. Et c'est là où j'ai mesuré que c'était important. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de vacherie, beaucoup d'insultes.
Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens? Parce que toi, tu es quand même sur le positif. On t'a fait tout type de coups fourrés dans ta vie, des coups de jarnac quelque part derrière le talon. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tous ces gens qui sont là pour le clic, pour le buzz impérativement, pour aller rechercher de la reconnaissance alors qu'on les connaît même pas? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
Aller sur une chaîne qui prend encore son temps.
Oui.
C'est pour ça que je suis dans le service public.
Oui.
Si j'avais été dans le privé, après le pépin de santé très grave sur le plan cardiaque qui m'est arrivé, quand j'avais déjà pas loin de 80 ans, je serais jamais revenu. Moi, j'ai connu les deux. J'ai connu TF1, où tu es.
Oui.
Je suis resté 5 ans, où ça a été un très bon souvenir. C'est très important de connaître le privé. Et puis, j'ai passé 55 ans dans le service public. Si on peut essayer d'être une chaîne où les patrons vous laissent le temps de vous installer.
Oui.
Mais malheureusement, maintenant, le sondage, un mauvais sondage, ça va. Deux mauvais sondages, ça casse.
Oui, c'est clair. Ouais. Et c'est une histoire de fou. On va parler de toutes les personnes que tu as rencontrées et qui t'ont marqué dans ta vie. Pour l'heure, ça va être un petit peu ta pub avant la pub, parce qu'il y a quand même une actualité somme toute assez débordante. Tu m'étonneras toujours, passé 80 ans, t'as toujours envie, comme on disait, l'envie d'avoir envie. Oui. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné ce titre qui te va, qui nous va à ravir, ton ami Johnny Hallyday. On va parler effectivement de toute ton actualité maintenant.
Sur Nostalgie, on se tutoie. Ta pub avant la pub.
Ta pub avant la pub, Michel, alors là, c'est ta pub, je ne comprends pas comment tu fais, cette énergie débordante. Il y a un bouquin avec le temps, alors toute nouvelle autobiographie, des souvenirs par millions, c'est chez Albin Michel, avec le temps va tout s'en va, mais toi, il n'y a rien qui s'en va. À chaque fois que je te parle de quelque chose, une petite brindille de souvenirs, bim bam boum, t'y vas, et ça c'est clair, et tu déroules la pelote de laine. Parle-nous de ce avec le temps, t'en avais besoin.
Oui.
Ouais.
Oui, parce que tous les jours, pratiquement tous les jours, on me demande alors, ça va mieux le cœur, tout ça, Michel?
Oui.
Et alors, comment vous faites? Comment vous faites pour être encore là? C'est pas possible, vous avez 83 ans. Et vous avez eu deux opérations du cœur, vous êtes là depuis des années, comment vous avez fait?
Oui.
Et à force de me poser la question, je me suis dit, si je me posais la question, moi, et j'ai essayé avec une préface de Nathan Devers, qui est un écrivain très talentueux,
oui,
qui est un jeune, il a fait la préface, on s'est rencontrés. Je l'avais engagé pour parler de livres pendant 2 saisons à Vivement Dimanche. On a sympathisé avec lui. 25 ans, professeur agrégé, normalien, auteur, prof de philosophie, bon, le contraire de moi.
Oui.
On a sympathisé et il m'a beaucoup interrogé sur ma carrière. Il m'a dit, pourquoi t'écris pas ça?
C'est-à-dire, c'est sur des anecdotes, sur des rencontres qu'on ne connaissait
non,
pas?
J'ai classé ça par 4 ou 5 chapitres. Mm-hmm. D'abord, qu'est-ce que c'est que la célébrité?
Alors vas-y, tu as répondu et on peut répondre
à
quoi?
Et comment on fait pour se faire connaître?
D'accord, alors qu'est-ce que la célébrité a aujourd'hui?
Alors la célébrité venue de la télévision, c'était très violent. Quand on a 22 ans, dans les années 64, et que subitement... Les gens vous reconnaissent dans la rue.
Mais c'est la parallèle avec la télé-réalité, excuse-moi de te couper, ouais. Et c'est la parallèle également avec les réseaux sociaux.
Oui, très violent.
Ouais.
Même au début, les gens ne connaissent pas notre nom, mais notre visage, donc il faut s'habituer.
Bien sûr.
Il faut s'habituer, parce qu'on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour être reconnu, on n'est pas fait pour avoir un visage que tous les Français connaissent, mm-hmm. Donc il faut s'y habituer. Mm-hmm. Et ensuite, faire très très gaffe. D'abord, la popularité et la célébrité n'ont rien à voir. C'est-à-dire, on peut être populaire et pas très aimé.
Oui.
Hein, c'est-à-dire que...
Et on peut être célèbre aussi. Et, voilà. Oui, bien sûr. Ça marche dans les deux sens.
Je cite deux exemples. Belmondo, quand je déjeunais avec Jean-Paul, les gens faisaient « Eh, Bébel, ça va lui taper sur l'épaule. » Il faisait une photo, il signait, il discutait. Delon n'approchait pas. Annie Girardot, « Bonjour, Annie Girardot. » Elle était là, elle prenait un café. Catherine Deneuve, on l'approche pas. C'est-à-dire, c'est pas la même chose.
Hein. Ouais.
Et donc,
entre célébrité et popularité.
Ça n'a rien à voir.
C'est intéressant.
Oui, j'explique ce que c'est quand on a 22 ans, tout ça. Et puis, comment on se fait remarquer? J'explique, quand on est inconnu, moi j'avais trouvé un truc en disant, il faut d'abord qu'on connaisse ma tête.
Ouais.
Ensuite ma voix, puis ensuite qu'on mette le vrai nom sous le vrai visage.
Oui.
Pas qu'on ne dise pas, bonjour Maurice, Maurice
oui. Chevalier
Becker, Sabatier, non.
Ouais. Bon. Et pour ça, tu as fait quoi?
Oh là là, pour ça j'avais remarqué que on faisait des commentateurs cabine. Quand on n'était pas célèbre, on faisait des commentateurs off.
Ouais.
C'est-à-dire, on commentait au journal télévisé les sujets filmés.
Bien sûr.
Alors, on disait, Drucker, t'es en cabine aujourd'hui. En cabine, ça voulait dire qu'on ne te voit pas. Mm-hmm. Et quand j'étais même en direct, sur les terrains de foot, je m'arrangeais pour qu'on cite mon nom au début et à la fin. Quelqu'un dit, nous allons rejoindre maintenant.
T'étais quand même carriériste, alors tu leur disais, tu peux me dire le mon nom de famille?
Non, c'est pas ça, je faisais en sorte avec Vendroux,
oui.
Qui était avec moi à l'époque.
Jacques Vendroux.
Jacques Vendroux, c'est le petit neveu du général, que c'était un cancre incroyable, donc on était deux cancres, on se marrait.
Oui.
Et on se disait, si on peut être, on nous citait deux fois par exemple.
Oui.
Nous allons rejoindre maintenant Michel Drucker qui est au Parc des Princes.
Oui.
Et on faisait mine de ne pas entendre.
Oui.
Alors, Michel Drucker, deux citations.
Extraordinaire. Et puis après, quel filou.
Attends, et après...
Je crois pas, j'ai jamais entendu ça de ta bouche.
J'ai écrit ça, mais c'est ça. Et si en plus, merci Michel Drucker, là, ça fait trois citations.
C'était extraordinaire. Alors ça, c'est la première chose que tu dis dans ton livre. Tu disais qu'il y avait cinq choses fortes. Ouais. C'est quoi les autres, en parsemant ton bouquin avec le temps?
Alors le visage, mettre le bon nom sous le vrai visage.
Ouais.
Et être là tout le temps pour qu'on s'habitue. Avec Jacques Vendon, on s'était dit, c'est ce qu'on va faire.
Oui.
On était rue Cognac-Gé, au 8e étage, c'était l'étape de la direction. Mm-hmm. On va rentrer, on va fermer une se tromper de porte.
Oui.
Conseil d'administration, tout l'état-major, les grands patrons de la télé sont là.
Oui.
Et on se trompe de porte. On arrivait avec un plateau avec des cafés, on frappait. Oh, excusez-nous. Et là, avec Jacques, on dit, tu comptes 5 secondes. Excusez-nous. Et pendant les 5 secondes,
mais non.
On regardait... pour qu'ils aient le temps de nous photographier.
Tu as fait ça?
Bien sûr.
Mais non.
Et comme j'étais là tout le temps, 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 tout le temps...
Oui.
Ils ont fini par se...
C'est le petit Drucker.
Voilà, c'est ça. Mais Bouvard a fait mieux, je l'écris dans les Bouvard. Il était stagiaire à 16 ans au Figaro.
Oui.
Il distribuait le courrier. Et le patron du Figaro, Jean-François Brisson, Bouvard avait remarqué qu'il allait soulager sa vessie après la conférence de rédaction tous les jours à 11h.
Oui.
Qu'est-ce qu'a fait Bouvard?
Oui.
Il s'est dit, je vais y aller tous les jours aussi.
C'est fantastique.
Alors, il est allé pendant des mois et des mois, t'imagines, Bouvard...
La taille.
La position verticale.
Oui, voilà. Oui.
Et à un moment donné, bah, évidemment, le patron... Je vous connais, vous
C'est fantastique.
Je vous connais. Et Bouvard, qui avait peur de rien, lui dit, bah, vous savez, monsieur le président, j'ai remarqué que vous alliez... aux toilettes à 11h après la conférence le jour. Ça fait 3 mois que je viens tous les jours en espérant que vous allez me revenir. Tu sais ce qu'il fait?
Vas-y.
Le patron dit, restez là, quel est votre nom? Philippe Bouvard, vous êtes au service du courrier.
Oui.
Il a appelé la DRH, il a dit, il y a un gars qui s'appelle Bouvard, il a 14 ans, oui. Vous l'engagez, c'est un journaliste.
Ça, c'est quand même fantastique. Voilà, ce sont les petites histoires de Michel Drucker, si vous venez de nous rejoindre.
Et puis aussi avoir la chance.
Qu'est-ce que... Oui, il y a le coup de bol aussi.
Il y a le coup de bol et puis ouvrir une porte que tu n'aurais pas dû ouvrir.
Oui, mais ouais. Ça, tu la faisais exprès quand même.
Ah non, non, non. Mais moi, je restais jour et nuit pour avoir les journaux gratuitement. Mm-hmm. Moi, j'étais là à 6h du matin et je terminais avec les pompiers vers 1h du matin. Et là...
T'avais soif d'infos.
Le soir, il n'y avait personne.
Oui.
Et un jour, je vois la lumière, filet de lumière sous la porte du PDG. Je dis, il est minuit.
Oui, voilà. Oui.
Et là, j'ouvre et je n'aurais pas dû ouvrir la porte.
Oui.
Et je vois le PDG de l'époque,
mm-hmm.
Assis dans les positions que tu imagines, mm-hmm. avec à cheval sur lui... Une journaliste très célèbre, la jupe relevée.
Mais non.
Et sur un siège pivotant. Donc, ils ont pivoté, ce qui fait que je les ai eus de face tous les deux. Ah, que tu veuilles ou non, ça crée des liens.
Mais oui. Mais ça crée des liens. Et là, regardez comme il est filou ce Drucker. Mais je ne le crois pas. C'est Avec le temps, son bouquin, chez Albin Michel. Donc ça, c'est les premières phases de la popularité. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ton bouquin avec toutes ces années?
J'habitais Place Clichy.
Oui.
Dans un petit appartement.
Ah oui, alors ça, tu l'as raconté, c'est d'une histoire de fou. Ça servait de garçonnière à tout le monde.
Alors, à la rédaction, tous les copains, moi j'étais le plus jeune,
oui.
ont su que j'habitais seul Place Clichy.
À l'époque où il y avait Léon Zitrone.
Pas avec maman Rue Sarrazade, pas
non,
du tout.
Non, mais Léon Zitrone habitait
Léon était mon voisin.
Oui, c'est ça.
De ma chambre, je le voyais dîner.
Oui.
Et les copains m'ont dit, dis donc, t'es une garçonnière, tu vis tout seul. Tu pourrais pas me passer...
Et là, il y a tout le métier qui est passé
pas
chez
toi.
Pas
tout le métier, mais en tout cas, une grande partie de la rédac me demandait mes clés pour le 5 à 7. Au point que moi, j'avais même plus la place pour moi. Et un jour, à la fin de la conférence, il y a le grand patron.
Oui.
Il dit, Drucker, après la conférence, je vais vous parler.
Oui.
Il dit, qu'est-ce qu'il va lui dire?
Oui.
Drucker, j'ai su que, le grand patron,
oui.
j'ai su que vous aviez, pour moi, ce sera le vendredi 17h.
Je ne le crois pas.
Oui, monsieur le directeur. Authentique. Alors, bien entendu, à chaque fois que j'accorde ça, devant des noms.
Oui.
Paix à leur âme, ils sont tous morts.
Donc, tant mieux, tout va bien de ce côté-là. Tu m'épatras réellement toujours. On continue avec ce bouquin. Donc, il y a des anecdotes de dingue. Ton ami, évidemment, Johnny, tous tes amis qui sont là. Johnny, évidemment, fait partie intégrante de ta vie. Oui. Au quotidien.
D'abord, Johnny a connu Dani, ma femme, avant moi. Johnny, je l'ai connu à ses tout débuts en 64-65.
Mm-hmm.
Je faisais l'émission à Douai, Tilt Magazine.
Oui, c'est son dont on a parlé.
Et,
ouais.
et il était là. Et tout le monde oublie que Johnny, en 66, son couple battait de l'aile avec Sylvie. Il a fait une cure de sommeil et une tentative de suicide en Suisse. Rien ne marchait pour Johnny. Et puis, il revient dans Tilt Magazine avec le succès de Los Bravos,
mm-hmm.
qui s'appelait en français Noir, c'est noir.
Ouais.
Et là, c'est son retour. Il casse tout, ça deviendra un tube gigantesque. Et à la fin de l'émission, c'était à Douai, il avait une Ferrari. Il dit que c'était une Lamborghini, mais non, je dis que c'était une Ferrari.
Mm-hmm.
Et on rentre à 2h du matin tous les deux.
De Douai.
De Douai. Et là, 180, 190, 200.
Oui.
Et lui, toujours mutique, très, très muet.
Oui.
Il se retourne vers moi, comme ça,
mm-hmm.
En me regardant. Alors je vois le compteur, il dit, ouais, est-ce que tu crois que Noir, c'est noir, ça va me relancer?
Los Bravos.
Los Bravos, c'est noir, ouais. c'est noir. Et, ouais. et tu dis, écoute Johnny, à la vitesse à laquelle on va, on le saura jamais. 220.
Ouais.
Oh, mais j'ai des souvenirs avec Johnny. Oh là là.
Ouais. Alors pour les auditeurs qui ne se remémorent pas, évidemment, Los Bravos, Black is Black sur Nostalgie, on va le retrouver avec un grand plaisir. Mais je ne savais pas qu'il avait fait quand même une tentative de suicide parce que ça ne marchait pas.
Non, ça ne marchait pas.
Ouais, d'accord. Et tu étais à ses côtés à cette époque-là?
C'est là où je l'ai connu,
oui.
à Douai, où il était démoralisé. On avait la même loge.
Oui.
Et il était démoralisé parce que... Ça marchait pas. Et puis, il était considéré comme le mauvais garçon qui se roule par terre.
Ouais.
On n'avait pas du tout mesuré que c'était une immense star.
Pour les auditeurs qui n'ont pas la référence, Los Bravos, c'est ça. Et repris par Johnny Hallyday. C'est bel et bien la route du week-end sur Nostalgie avec Michel Drucker. Je suis content de te recevoir, Michel. Mimi, ça va?
Los Bravos, on l'écoute rarement. Hein.
Eh ben ouais, eh ben c'est sur Nostalgie et nulle part ailleurs, monsieur. Et alors, t'entends ça?
Ah, c'est vachement bien.
Ah bah évidemment que c'est bien.
Mais la nostalgie, c'est important, la nostalgie.
On en
parle. Ça veut dire la mémoire. Hein.
Bah oui. Et toi, on a de la mémoire.
Ouais.
Version originale, s'il vous plaît, monsieur Drucker.
Black is black. I want my baby back.
On roule à la cool avec Jean-Luc. Top départ pour le week-end.
On se tutoie
avec Jean-Luc Reichmann sur Nostalgie.
Le souvenir sur Nostalgie, ça c'est de la bonne nostalgie positive ou pas, Michel?
Ah oui, alors.
Ouais.
Mais moi j'aime bien, c'est pour ça que dans Vivement Dimanche, il y a toujours au moins un chapitre sur la nostalgie où je rends hommage aux anciens.
Oui, bien sûr.
J'ai fait ça avec Bourville cette année. J'ai fait ça. Mm-hmm. Je vais faire ça avec Villeray à la rentrée. Je vais faire avec Dino Ventura. Mm-hmm. Je l'ai fait avec tous ces gens que j'ai beaucoup aimés. Là, on va faire Bachelet bientôt. Mm-hmm. Parce que c'est important de...
C'est hyper important. C'est hyper important de se rappeler quand même.
Si je le fais pour moi, qui va le faire, quoi?
Personne. On continue évidemment avec le temps. Il y a encore des petites anecdotes. Tu disais qu'il y avait quand même des points que tu soulevais. Outre ce phénomène du parcours exemplaire, tu es quand même le seul à avoir un parcours comme ça. Tu en as conscience quand même.
J'en ai plus conscience maintenant.
Oui.
Mais j'ai pris beaucoup plus de recul sur ce métier depuis que j'étais à l'hôpital, parce que j'ai eu le temps pendant toutes ces longues nuits, pendant 2 ans pratiquement, de réfléchir, car je pensais que j'allais pas revenir parce que le pronostic vital avait été engagé 2 fois. Mm-hmm. Mais voilà, mais dans le livre également, je parle de Michèle Arnaud. Michèle Arnaud est une femme très importante, mm-hmm, qui était chanteuse, un peu un télo, à l'époque de Catherine Sauvage, mm-hmm, juste avant l'époque Barbara. Mm-hmm. Et elle était très influente. C'est elle qui a découvert Jean-Christophe Averti. Mm-hmm. Elle faisait Les Raisins Verts, une grande émission de télé. Elle me voit prendre l'antenne et meubler dans un truc improbable,
ouais,
depuis le Bourget, où je devais commenter l'arrivée d'un avion. Ça s'appelait Tête de bois en plein ciel avec Albert Esner. Mm-hmm. Ils avaient emmené Dalida, Adamo, toutes les stars, Johnny, Claude François, mm-hmm, à Marseille. Et moi, je commentais l'arrivée, le retour de l'avion.
Oui.
Et puis j'ai commenté, on fait signe de continuer. J'ai meublé pendant 7 ou 8 minutes. Puis finalement, on dit stop, tu rends l'antenne. En fait, l'avion s'était posé un quart d'heure avant, car le vent avait tourné, ils avaient changé la piste, et il y a une dame qui s'appelle Michel Arnaud qui me convoque.
Oui.
Elle me dit, voilà, je suis productrice, je la connaissais bien sûr, elle me dit, je vais faire un essai avec un jeune pour une émission sur le Tilt Magazine. Bon, vous faites un peu province, mais ça peut s'arranger.
Vous faites un peu province, ouais, on t'a dit ça?
Elle m'a dit pire que ça.
Oui.
Donc j'ai ramé.
Ça veut dire quoi, elle t'a dit pire que ça, dis-moi?
Elle me dit, bon, vous faites, quand vous allez présenter Hugo Frey, changez le ton, c'est pas Bordeaux abattu Saint-Etienne, c'est Hugo Frey. Mmh. Donc, elle m'a changé mon look, elle m'a amené chez Renoma avec un costume vert, cravate rose et une cravate tricolore.
Très Claude François.
Oui. Et j'ai débuté avec elle, elle m'a engueulé souvent, elle me disait des choses effrayantes, mais elle m'a présenté tout le monde. Elle a présenté Paul Naref, elle avait Gainsbourg qui était encore peintre comme pianiste en Villars-la-Souris.
Ouais.
Puis un jour, elle dit à Serge, qui gagnait sa vie en l'accompagnant la nuit, « Dites-moi Serge, tu parais que vous faites des chansons ?» Alors lui, il bredouille 2-3 trucs, il dit « Oui, ben amenez-moi une cassette. »
Oui.
Il amène une cassette, il y avait la javanaise et le poinçonneur des lilas.
Juste ça.
Elle a dit « Vous arrêtez, oui, mon pianiste, et essaie de t'occuper de lui. » Elle m'a présenté tout le monde.
Oui.
Et quand je l'ai rencontré, elle m'a dit « Vous savez, Drucker, dans ce métier qui est un métier où tout le monde dit du mal de tout le monde,
oui,
vous allez entendre beaucoup de ragots. Alors si vous entendez dire que j'ai couché avec Mitterrand, c'est vrai, je suis sa maîtresse. » Elle m'a fait découvrir le monde politique.
Oui.
Et pendant des années, pendant 2 ans, au deuxième rang du Miller-Larsouge, qui était le cabaret où elle était, il y avait au premier rang Mitterrand et son copain André Rousselet qui va créer Canal+ des années plus tard.
Ouais, bien sûr.
Donc elle m'a présenté tout le monde, c'est là où j'ai connu le monde politique.
Mmh, alors c'est intéressant, t'as rencontré
des gens. Elle me disait, sachez qui a couché avec qui couche avec qui couchera avec qui, ça peut être utile.
Qui couchera, donc il fallait que tu anticipes déjà.
Oui, il fallait anticiper déjà.
Voilà, oui, voilà, c'est un vieux renard des surfaces, Michel Drucker. Juste, il y a une question, quelle est la personne que tu aurais aimé recevoir, mais qui n'est jamais venue? T'as déjà réfléchi à ça?
Ben, j'aurais bien voulu recevoir le pape de l'époque. Mm-hmm. Mais bon, tourner au Vatican, c'était compliqué.
Ouais.
Non, j'aurais bien voulu recevoir Mandela, à l'époque où je faisais des politiques.
Ouais.
Et Jacques Lang aurait pu me pistonner, mais Mandela était déjà, d'abord en Afrique du Sud, mm-hmm, était déjà très malade.
D'accord.
Sinon, j'ai reçu... Si, la reine d'Angleterre. C'est pour ce qui est... La reine d'Angleterre, ça.
Oui.
Si j'avais connu Berne avant, j'aurais demandé de me pistonner.
Oui.
La reine d'Angleterre. Oui. Beaucoup d'humour, la reine d'Angleterre.
Ah oui, oui. Et puis, alors, quand on parlait d'autodérision, quand même, elle est apparue dans des pubs, dans des clips.
Elle a sauté en parachute.
Oui.
À l'époque de Daniel Craig.
Mm-hmm.
C'est un trucage. Non, c'est... Mais sinon, je sais pas à me plaindre, j'ai reçu vraiment beaucoup de gens.
D'accord.
Beaucoup, beaucoup.
Une question, puisque tu parles de ça, les personnes que tu aimes le moins recevoir, les comédiens, les chanteurs, les journalistes, les sportifs, les politiques, le moins recevoir, parce que tout le monde parle de lui, tu leur fais parler admirablement d'eux, il y en a qui sont quand même un petit peu auto-centrés, quand même beaucoup, non?
Beaucoup, alors, le melon. Il y a le passage melon. Je le dis, il faut lutter pour pas prendre le melon quand ça commence à marcher. Mmh. Moi, j'étais trop anxieux, puis j'avais des parents Ma mère me disait, quand je faisais Champs-Élysées, tu fais quoi dans la semaine? Tu travailles que le samedi.
Oui.
Et quand, moi, quand j'avais mon père au téléphone, qui était un petit médecin de campagne, qui faisait encore des accouchements dans les fermes, parce qu'à l'époque, dans les années 50, on n'accouchait pas à la maternité, car il ne fallait pas laisser longtemps le troupeau de vaches. Et quand il m'appelait, ça va? Je dis, papa, je suis fatigué. Ah, t'es fatigué? Rappelle-moi ton âge, t'as 38 ans. T'es fatigué. Tu sais ce que j'ai fait cette semaine? Je me suis levé toutes les nuits de garde, j'ai fait deux accouchements.
Papa était médecin pour les
médecin
auditeurs.
De campagne,
oui.
Etc. Et t'es fatigué? Ah, oui. Tu sais combien elle gagne une infirmière? J'ai plus jamais dit à mon père j'étais fatigué et je n'ai plus jamais dit combien je gagnais.
Oui.
Parce qu'un jour, Télé 7 jours à l'époque m'avait dit, vous gagnez combien? Moi j'avais joué la transparence, comme aux États-Unis. À l'époque j'étais transféré, si j'ose dire, à RTL. Et tu sais bien que les radios périphériques de l'époque payaient plus que la télé publique.
Bien sûr.
Donc à l'époque ça devait être l'équivalent de 2 500 euros,
ouais,
par mois, ce qui était beaucoup.
Évidemment, bon, par rapport à une infirmière dont parlait ton papa.
Et aujourd'hui c'est 10 fois plus.
Bien sûr.
Quand on fait la radio. Et je lui dis ça. À Télé 7 jours, ils ont reçu des tonnes de courriers en disant que Drucker soit bien payé, il le mérite sans doute, mais pourquoi il s'en vante? Et là, mon père m'a appelé, il me dit, dis donc, pourquoi tu dis combien tu gagnes? Et tu sais combien gagne une infirmière?
Bien sûr.
Donc depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais dit ce que je gagnais parce que c'est mal vu en France. Moi, je pensais que c'était la transparence. Et la franchise,
ouais.
Il faut pas.
Ouais, ouais. Alors, la période Melon, on peut en reparler, parce que je te demandais ce que tu aimais le moins, et tu m'as pas répondu...
Le moins, les artistes qui arrivent en retard,
ouais,
et qui ont une cour...
Tout autour,
ouais, et qui ont la mémoire courte,
ouais,
qui oublient.
D'accord. Les politiciens, c'est délicat quand tu vois que, par
les
exemple...
Les politiciens me fascinent tous, parce que ce qu'ils font...
Non, mais le phénomène de Cyril Hanouna, ça grouille un petit peu en disant...
Oui, il va se présenter.
Non, mais c'est la question que je te pose. Est-ce que Cyril, que tu connais et que je connais,
très,
évidemment,
très bien,
parce que c'est un ami de toute manière, qui mène très très bien sa barque, ouais, est-ce qu'il est crédible, tout comme un Coluche de l'époque?
J'ai vu qu'il était crédité de 10%.
Oui, minimum.
Minimum, c'était le score de Coluche.
On est d'accord. Toi, tu vois comment l'arrivée de Cyril dans le PAF et dans la politique?
Moi, je pense qu'il ne va pas y aller.
D'accord.
Je pense qu'il ne va pas y aller parce qu'il n'a que des coups à prendre.
Eh bien, moi, je pense qu'il va y aller.
Tu crois qu'il va y aller?
Ouais. J'aime bien débattre de ça avec toi, parce que justement, c'est l'univers des possibles. Il est dans la proximité avec ce dont tu as parlé, comme ton papa disait, les infirmières, etc. Et au moins, toutes ces personnes-là se reconnaissent en Cyril. Après, que ça marche ou ça marche pas, pour nous, on n'a jamais fait de politique, ni toi ni moi. Tu les as interviewés. Tu les as tous reçus. Mais moi, je pense qu'il va y aller, justement, pour mettre un coup de pied dans tout
moi,
ça.
Moi, je me souviens que Coluche,
oui,
était venu dîner chez moi un soir. Dans cette période-là, il avait un de ses copains qui avait été flingué, il était menacé, ses enfants étaient menacés avec des messages terrifiants sur son répondeur. C'est quand même, la politique, c'est un métier dangereux.
Ah non, mais ça c'est clair.
C'est autre chose.
Oui, c'est totalement autre chose, mais il y a quand même le côté sportif, c'est dangereux, le côté aussi télévision, il est dangereux. Je veux dire, toi tu es passé entre les gouttes, mais il y en a beaucoup qui sont restés sur le carreau quand même.
J'en parle dans le livre.
Oui.
Moi, ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir été viré très tôt. J'ai été viré en mai 68. Et en mai 68, j'avais 26 ans, j'étais déjà un petit peu connu, je faisais des émissions qui marchaient bien. Et là, j'ai compris que notre célébrité, c'est un miroir, mais c'est du sable qui vous glisse entre les doigts.
C'est intéressant.
Je crois que
le
végétarien est un faux végétarien.
Ouais. Ce qui t'a sauvé, c'est d'avoir été viré, c'est-à-dire que ça t'a remis la tête sur les épaules dès cette jeunesse. Ouais.
Et puis ce qui m'a sauvé, c'est mes parents, parce que mon père, quand j'ai fait grève en 68, on se prenait tous pour Che Guevara, on défilait. Moi, je défilais avec Segui,
Daniel Rouge,
Krasuki,
oui. Daniel Cohn-Bendit ou pas?
Oui, avec Daniel Rouge et tous ces
gars,
on défilait. Et on défilait à la Bastille en disant libérez l'ORTF. Je sais que mon père, qui était fou de rage, il me téléphone, il me dit dis donc, qu'est-ce que tu allais foutre là-bas? Pourquoi tu... Je dis, papa, je voulais pas être un jaune, je voulais pas...
Je voulais pas être un jaune,
ne pas trahir les grévistes.
Oui.
Tu sais, quand tu fais ton rêve, t'étais un jaune.
D'accord, j'avais pas la
jaune,
référence.
Pas un gilet jaune, mais t'étais...
Oui, c'est pour ça que j'avais pas la référence.
T'étais le gars qui brise la grève ou qui se désolarise de ses copains.
Oui.
Et mon père avait beaucoup d'ironie, mais je savais pas que Sheila était très politisé, je savais pas que Claude François était un militant, je savais pas que Johnny était à l'extrême gauche,
oui.
Donc il s'est foutu de ma gueule,
oui.
Et puis je suis resté sur le carreau 7-8 mois, et grâce à Michel Arnaud, qui non seulement avait été la maîtresse de Mitterrand, mais elle était la voisine de Pompidou. Et c'est elle qui m'a pistonné. Et à l'Élysée, on a dit, bon, Drucker, le journaliste est viré, mais pas l'animateur de variété.
Ça, c'est merveilleux.
Et j'ai continué.
C'est merveilleux. Et tu continues. On continue à parler de toi, juste parce qu'il y a famille, je vous aime, aussi, dans ton actualité.
J'en parle de la famille dans le livre.
Mais oui,
tu la connais, ma famille.
Mais évidemment, je la connais très, très bien. Et puis, alors, en plus, tous les membres de ta famille, et j'en suis très, très fier. Le Michel Drucker arrive, retourne en prime time à 83 balais. Excuse-moi, c'est quand même gonflé.
Ça sera avant l'été. Je sais pas quelle est la date exacte.
Avant l'été, le grand Michel arrive.
C'est-à-dire que c'est un secret pour personne, c'est que j'ai un rapport aussi fort avec les parents des artistes, leur grand-mère, leur père, leurs frères, leurs cousins, que les artistes eux-mêmes.
Oui.
Par exemple, hier, je voulais avoir des nouvelles de Pascal Obispo, j'ai appelé Nicole, sa mère.
Oui.
Comment va Pascal ?
Nicole, sa mère, et non pas Nicole Sonneville.
Non.
Oui, j'ai bien compris. Et comment va-t-il ?
Quand j'appelle la maman de Patrick Bruel, quand il n'est pas là, je crois que sa maison avait brûlé à Los Angeles, j'ai pris des nouvelles auprès de sa mère.
Oui.
Les parents de Cadmera, je les connaissais très bien. Ce sont des gens que je connais bien. Mm-hmm. Et donc, une de mes collaboratrices, qui s'appelle Florence Fessa, m'a dit, Michel, pourquoi vous ne feriez pas un jour une émission où justement, vous êtes le seul à pouvoir le faire, où les artistes amèneraient leur famille sur le plateau.
Oui.
J'ai proposé ça à la direction de France 2, qui ont dit, oui, c'est intéressant.
Mm-hmm.
Et j'ai appelé ça « Famille, je vous aime
mm-hmm. ».
Et ils étaient 15. Le parrain, c'est Gad Elmaleh, qui est venu avec son papa et sa maman.
Oui.
Michel Leeb est venu avec sa femme et ses 3 enfants.
Oui.
Les Chédides sont venus tous ensemble.
Il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi aujourd'hui.
Parce que je connais très très bien les animateurs. Mmh. Souvent, je les appelle à l'étranger.
Mmh.
Mais toi, je connaissais les parents de Céline très bien. Les parents de... Attends, je suis allé en vacances avec les parents de Rulio.
Mmh.
Mais je les connais vraiment très très bien.
Mmh.
Et je dîne avec eux souvent. Souvent... sans avoir rien à demander à leurs enfants, je les appelle pour déjeuner.
Et ça, c'est quand même très, très agréable. Parce que toi, tu n'oublies pas d'où tu viens, et tu n'oublies pas qui tu es. Et qui plus est, alors voilà, je trouve ça fou. Donc, tu te rends compte que pour nous, tu es un moteur, et tu te dis, tiens, à un moment donné, cette envie dont on parlait, elle est encore là, parce que tu te dis, eh ben, je vais encore aller, pourquoi pas, raconter, si j'ai la force et l'envie, sur scène. T'as envie,
Revenir sur scène.
De revenir sur scène, parce que cette proximité, il n'y a que toi qui l'as. Moi, je t'ai vu sur scène moult fois. Et ce phénomène, t'es sans filtre avec eux. Tu leur dis, ah bah oui, mais je vous raconte, ah oui, bah oui, Johnny, ah bah oui, Claude François, ah oui, Serge Gainsbourg. Et t'as encore cette envie et cette niaque, il te faut des objectifs, quoi.
Mon voisin en Provence, c'était Charles Aznavour.
Oui.
Qui aurait pu vivre encore un peu, il aurait pu chanter. Il voulait que je présente son émission du centenaire.
Oui.
Alors, je dis, Charles, oui, fais-moi une proposition pour le jour du... centenaire, un grand gala. J'ai dit, la Tour Eiffel me dit non, c'est trop attendu.
Oui.
Le Stade de France, trop attendu.
Mm-hmm.
Je dis, mais faites à la Concorde, on peut mettre un million de gens.
Oui.
Il me dit, oui, d'accord, mais où vous mettez le podium?
Oui.
Il m'a dit, ben, mettez-le pratiquement sur la ligne d'arrivée du Tour de France, parce que j'aurai l'Arc de Triomphe derrière moi.
Oui. Non, mais il est fantastique.
Et c'est lui qui me disait, Michel...
Ouais.
Ayez toujours un projet.
Mm-hmm.
C'est les projets qui font vivre, qui donnent envie.
Donc ce projet de revenir sur scène, c'est de raconter un petit peu toutes tes anecdotes que tu as vécues avec toutes ces personnes.
Peut-être ce livre-là, je le raconterai sur scène.
Ouais.
J'ai déjà un titre provisoire qui pourrait être « J'ai oublié de vous dire ».
Ah ouais. Eh ben écoute, on va continuer à se parler, bien évidemment.
Et puis
évidemment.
Je continue la télé.
Mais oui, bah oui, bah je sais bien que tu continues la télé et que tu n'arrêtes toujours pas.
Voilà, dans les jours qui viennent, je fais Vivement Dimanche avec Foucault, avec Jean-Pierre, que j'aime beaucoup, avec Balavoine, avec Lavoine.
Avec Balavoine aussi, ça c'est quand même merveilleux.
Non, Balavoine, je lui ai rendu hommage à Daniel cette année.
Mais oui,
avec Marc Lavoine, avec Adriana Carambeu, il y aura Laurent Gérard, il y aura...
Je sais même qu'il y a Evelyne Delia aussi.
Oui, je fais une émission avec Evelyne Delia.
Je sais.
Et avec Denise Fabre.
Eh ben écoute, on est vraiment ravis. Pour l'heure, il y en a une qui a marqué également... notre vie et la tienne, c'est elle. Céline Dion sur Nostalgie.
Il pense à moi, je le vois, je le sens, je le sais.
Je le sens, je le sais.
Et son sourire ne ment pas quand il vient me chercher.
Quand il vient me chercher.
Il aime bien me parler des choses qu'il a vues.
Jean-Luc Reichmann vous emmène. En week-end.
On se tutoie. Tutoie sur Nostalgie.
Céline Dion sur Nostalgie, je te voyais très méditant. C'est fort Céline Dion quand même, l'histoire de la petite Céline Dion qui arrive chez Michel Drucker.
Je connais tout la famille, je suis allé à Charlemagne,
oui.
Dans la petite maison où elle a grandi. Je lui dis dans le livre, ce qui était fascinant, ils étaient 14 dans la famille,
oui.
Et ils avaient du mal à joindre les deux bouts.
Bien sûr.
Et dans la petite maison de Charlemagne, moi je l'ai vécu, elle me l'a fait visiter.
Oui.
Le soir, ils enlevaient tous les tiroirs des commodes, ils vidaient les tiroirs, ils mettaient des oreillers, ça servait de lit pour les nourrissons.
Ouais.
Ils dormaient dans les tiroirs.
Tu t'imagines aujourd'hui, t'as envie de... Tu l'as de temps en temps, Céline, au téléphone?
J'ai de ses nouvelles par son attaché de presse.
Ouais, comment elle va? T'as envie de lui parler?
Écoute,
t'as envie
depuis,
de lui dire
depuis la Tour Eiffel, depuis les Jeux Olympiques, je me demande si elle n'est pas capable de revenir.
Oui.
Je crois qu'elle va faire un album.
Elle a envoyé un signal fantastique d'espoir pour tout le monde. Elle s'est fait filmer dans des conditions de dingue, vraiment nature, nude.
Elle avait une autonomie de 4 minutes. Et la chanson L'hymne à l'amour durait 3 minutes 30.
Oui.
Elle n'aurait pas pu chanter.
Ça veut dire quoi, elle avait une autonomie de 4 minutes?
Physiquement.
Oui.
Et vocalement.
Oui.
C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup entraîné. Et puis c'était costaud cette chanson.
Elle a envoyé un signal d'espoir fantastique à plein de personnes aussi qui sont en danger.
Elle a une maladie étrange et incurable de l'homme raide, c'est-à-dire qu'elle a des douleurs aux jambes et qui peuvent arriver comme ça subitement.
D'accord. La maladie de l'homme raide.
On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann.
Tous les vendredis soirs, 19h-20h.
Et à tout moment en podcast sur l'appli Nostalgie.